Radio Cité Genève, Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Bonjour, vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine. Vous êtes aujourd'hui à l'écoute d'un grand scientifique, un grand médecin, alors un grand spécialiste de cette terrible pandémie qui a terrassé le monde, le professeur Antoine Flahault. Bonjour Antoine.
Bonjour Viviane.
Merci beaucoup d'être à notre micro. Nous sommes très flattés, très honorés, parce que nous sommes une petite radio complémentaire à Genève, bien qu'écoutée dans 122 pays dans le monde, grâce au podcast. Nous sommes très heureux de vous recevoir et de parler de votre dernier livre qui s'appelle « Covid, le bal masqué », ce qui est effectivement une jolie image.
Merci.
Mais avant, on veut savoir, derrière ce grand professeur, derrière ce grand scientifique, quel est l'homme? Alors je vais vous poser la question rituelle. Quel petit garçon étiez-vous?
J'étais un petit garçon qui est pratiquement né en Afrique. En Afrique subsaharienne. Mon père et ma mère étaient médecins, tous les deux. Mon père, qui est toujours en vie et qui vit à Genève, était médecin à l'Organisation mondiale de la santé. Donc, quelque part, je suis un petit peu né dans la santé globale.
Dans le chaudron.
Tout petit, dans le chaudron. Et on a suivi mon père dans des endroits très difficiles, au Congo belge, au moment de la guerre d'indépendance.
Ça, c'était terrible.
À Léopoldville, qui est devenu Kinshasa. Oui. C'était assez terrible. Après, on est allé au Niger, à Niamey, qui était une ville...
Il vous est rien arrivé, pardon, mais mon père avait des affaires de courtage d'assurance dans ces pays-là. Et effectivement, il y a eu quand même pas mal d'exactions, pas mal de problèmes. Il vous est rien arrivé, vous avez...
Non, grâce à Dieu, il ne nous est rien arrivé, mais mes parents ont des histoires parfois assez difficiles, assez terribles. Ma mère était pédiatre là-bas et s'occupait de l'hôpital. Le dernier endroit où on a été, c'était à Lomé, au Togo.
À Lomé, oui.
Qui était un endroit plus agréable à vivre, au bord de la mer, etc. Et ma mère était le médecin-chef du service de pédiatrie et c'était assez compliqué pour elle, avec les moyens très limités dont elle disposait, de pouvoir essayer d'administrer la médecine de qualité qu'elle avait apprise en Europe. Et en fait, j'ai donc été baigné et bercé de cette volonté de comprendre l'extrême inégalité de ce monde, en particulier vis-à-vis des pays les plus pauvres de la planète, qui ne bénéficient pas le plus souvent des soins qu'on peut avoir quand on est né, quand on a la chance d'être né sous les bonnes latitudes.
Et alors, vous étiez un petit garçon, parce qu'on est heureux quand on est enfant en Afrique. Il y a une certaine liberté.
Vous avez tout à fait raison. Je pense que l'Afrique est un endroit où les enfants sont heureux. Je dirais presque que lorsque je suis arrivé, c'était à Genève. Mon père revenait au siège de l'OMS. Quand je suis arrivé à l'école à Genève, j'ai un petit peu compris ce qu'était la vie des petits Européens et qui était en effet pas celle que j'avais vécue pendant les 8 premières années.
Alors à quel âge, Antoine ?
À 8 ans.
À 8 ans. Donc à 8 ans, vous rentrez à Genève ?
À 8 ans, je rentre à Genève, je vais à l'école française du Chemin des Roches et donc je vais faire ma scolarité. Mes parents étaient français l'un et l'autre et donc je vais faire toute ma scolarité à Annemasse après au lycée d'Annemasse en France.
Vous êtes un bon élève.
Et je suis un bon élève qui aime bien les mathématiques et qui... très tôt, a souhaité faire médecine. Il se trouve que c'est une sorte d'atavisme familial. Mon grand-père, le père de mon propre père, était également chirurgien. Plusieurs frères, deux autres frères de mon père étaient médecins. Ma mère était médecin. Mon épouse est médecin. Mes enfants sont médecins.
Ah, On peut pas imaginer la vie autrement.
Donc je n'imaginais pas la vie autrement. Mais j'aimais en plus de la biologie, des sciences de la vie, parce que c'est extraordinaire les sciences de la vie. Hein. La découverte du corps humain dans les études de médecine, c'est fabuleux.
Mais alors à quel âge on découvre les sciences de la vie?
Alors on découvre les sciences de la vie quand on est au collège et au lycée.
Pas avec les professeurs qui vous montrent les souris disséquées, si, c'est ça?
De façon un petit peu décevante. Enfin, j'ai pas eu le même attrait que le corps humain que l'on visite finalement dans les premières années de médecine. La médecine est très intéressante pour cela parce qu'on fait tout ce qu'on appelle la physiologie, c'est-à-dire comment fonctionne un rein, comment fonctionne le foie, comment fonctionne le système immunitaire, bref, comment fonctionne le corps humain. Et ça, c'est un voyage absolument fabuleux.
Alors, vous rentrez donc, après l'ANMAS, vous rentrez en faculté de médecine à quel endroit ?
Alors après ANMAS, je suis à Genève à l'époque, mes parents sont à Genève et nous sommes avant l'ère de ce qu'on appelle les bilatérales. Oui. C'est-à-dire que quand on a un diplôme genevois, suisse, on ne peut pas exercer en Europe. Donc mes parents me disent, peut-être, comme tu ne sais pas exactement où tu iras, vous savez, mon père voyageait tout le temps, on ne savait jamais très bien où on serait 3 ans plus tard, eh bien, il m'a dit, peut-être qu'il vaut mieux revenir en France faire tes études de médecine. Et donc, je suis allé chez mes grands-parents, vivre chez mes grands-parents, comme étudiant en médecine à Paris.
À Paris.
Et c'est à Paris que j'ai fait ma médecine.
D'accord. Et là, beaucoup de découvertes, beaucoup de...
Et là, oui, j'ai souhaité au départ faire de la médecine générale, ne sachant pas... Au fur et à mesure où je continuais mes études de médecine, je ne savais pas très bien quelle est la spécialité qui me plairait, parce que je trouvais que tout était intéressant et que le généraliste... Alors j'ai fait de la médecine générale, c'est-à-dire que j'ai remplacé un de mes oncles, le frère de mon père, qui était médecin généraliste à Paris. Je le remplaçais pendant l'été et je voyais, on montait... Il faut savoir qu'à Paris, il y a beaucoup d'endroits, en tout cas au moment où je terminais ma médecine, beaucoup d'endroits n'ont pas d'ascenseur. Les gens habitent au 7e, 8e étage et font des escaliers. Et voilà. Et moi, je marchais avec ma sacoche de médecin et je montais des escaliers à longueur de journée. Les visites se faisaient à domicile pour beaucoup de personnes âgées. Et c'était très, très intéressant de rentrer chez les gens et qui vous ouvrent leurs portes avec toute leur confiance et que vous pouvez peut-être un peu aider à rester dans cet état d'autonomie dans lequel ils sont pour leur éviter d'aller dans des EMS, on dit les EHPAD en France. Et donc, c'était un petit peu ça, le début de ma carrière. Et puis, j'ai eu ce qu'on appelle l'internat des hôpitaux de Paris qui m'a permis de voyager dans des spécialités. Alors j'ai été en réanimation, j'ai aussi été en pédiatrie. Et puis finalement, je me suis dit, la spécialité qui me plaît le plus, c'est la santé publique. Et donc j'ai fait une spécialité de santé publique, c'est-à-dire celle de mon père et de ma mère. Mes deux parents, ma mère avait fait aussi de la santé publique. D'ailleurs, quand elle est revenue en Europe, elle n'a pas eu de chefferie de service de pédiatrie. Tout était assez encombré. Et donc elle est devenue médecin scolaire, ce qui est une discipline de santé publique. Donc la santé publique, qui n'était pas très appréciée par mes collègues, mes camarades de promotion, pour moi, représentait ce que je connaissais très bien, qui était ce qu'exerçaient mes parents. Et c'est de là où je me suis engagé.
Et après Paris, alors ?
Et donc, c'est resté à Paris au début. Donc, j'étais nommé professeur à Paris.
Mais attendez, on ne saute pas comme ça d'étudiant en professeur.
Non. J'ai dû faire une thèse, en plus de ma thèse de médecine, j'ai fait une thèse de biomathématiques. C'est-à-dire que je suis allé à la faculté des sciences, à Jussieu. Il n'y avait plus de médecins, là. Et je faisais des mathématiques. Ce qui m'intéressait, c'était... l'avènement de l'informatique et de l'ordinateur dans les sciences de la vie et dans la médecine. Et très rapidement, il se trouve qu'un médecin, non pas un médecin, mais un professeur polytechnicien qui m'a un peu pris sous son aile protectrice et bienveillante, il était très très calé il s'appelle le professeur Valeron, il est toujours en vie, il était très calé en modélisation des maladies transmissibles. Il m'a envoyé à des...
Qu'est-ce que c'est que la modélisation pour nos auditeurs ?
En fait, les maladies transmissibles répondent à une théorie mathématique des épidémies et qui permettent de faire ces modèles qui nous disent, vous savez, on parle beaucoup de taux de reproduction. C'est un produit qui vient d'un modèle mathématique. On parle aussi de prévision. On dit il va y avoir une nouvelle vague ou au contraire l'épidémie est en train de céder du terrain en ce moment. Tout cela se fait grâce à des modèles mathématiques, un petit peu comme la météorologie. Il y a des grands modèles mathématiques qui aujourd'hui nous prédisent le temps pour demain ou pour après-demain. De la même façon, j'étais très intéressé par ces questions-là et ce polytechnicien, ce professeur, m'a permis de comprendre ce type de modèle. Il m'a envoyé dans des colloques franco-soviétiques, car les soviétiques étaient extrêmement...
Franco-soviétiques,
oui. À l'époque, les soviétiques étaient très très calés, le reste toujours en mathématiques, hein, les russes, et avaient une très bonne école et aussi étudiaient la grippe. Alors, nos colloques avaient lieu régulièrement à Moscou, à Paris, à l'Institut Pasteur. Enfin, donc, on avait ces échanges, un petit peu comme aujourd'hui, nous avons des échanges très étroits. Moi, j'ai des échanges avec les Chinois. C'est-à-dire que les tensions qu'il peut y avoir dans le monde géopolitique ne doivent pas affecter les chercheurs.
Les questions scientifiques.
Les scientifiques. Il faut que les échanges scientifiques puissent avoir lieu. On est parfois un trait d'union dans un monde en pleine tension, sans aucune naïveté, mais ce trait d'union parce qu'on sait qu'en général, on a tous les mêmes objectifs et on essaye de rapporter un peu de sérénité épidémiologique dans le monde un peu troublé, pas simplement sur le plan politique, mais aussi sur le plan des bactéries ou des virus.
Antoine, on va écouter le boléro de Ravel, on en parlera tout à l'heure parce que vous avez dit que la pandémie, c'était un peu comme le boléro de Ravel.
Oui.
On va en parler tout à l'heure. On l'écoute ?
Oui.
Radio Cité Genève, Viviane De Witte.
La bouteille à moitié pleine.
Vous êtes sur Radio Cité Genève avec le professeur Antoine Flahaut, un grand médecin, un grand spécialiste de cette pandémie qui nous a tous terrassés. Et Antoine Flahaut, le professeur Antoine Flahaut, a écrit « Covid, le bal masqué ». Nous allons maintenant en parler. Alors, qu'est-ce qui vous a amené, Antoine, à écrire ce livre ? De cette façon-là.
Je pense que j'étais alerté dès le premier jour par cette menace de maladie émergente, cette émergence de Wuhan en Chine qui a été annoncée à la radio dès le 1er janvier 2020, si vous vous souvenez. Et bien sûr, à l'époque, personne ne pensait que ça allait devenir une pandémie, et pas plus moi. Je dirais presque le contraire. Pour chaque émergence, je redoutais que ça puisse devenir une pandémie. Vous savez, quand on travaille dans le domaine, et moi, c'est vraiment ma spécialité, les maladies émergentes transmissibles. Je me suis intéressé au SARS, à l'époque, c'était en 2003, à Hong Kong en particulier, où j'ai d'ailleurs construit des collaborations avec les chercheurs de l'Institut Pasteur et de l'Université de Hong Kong. Mais aussi d'ailleurs à Taïwan. Et puis, je me suis aussi intéressé au chikungunya, où le Premier ministre de la République française m'avait confié la charge de coordonner les opérations de recherche sur le domaine pour pouvoir éclairer les politiques publiques. Donc, c'est vrai, et puis pour la pandémie de grippe H1N1 également, j'ai donc, pour presque toutes les émergences épidémiques, j'ai commencé, pour vous dire, ma thèse de science sur le sida, sur la pandémie du sida. Donc, toutes ces émergences ont, je dirais, jalonné ma carrière scientifique. Et à chaque fois qu'un nouveau virus, un nouveau germe émerge, mais c'est assez fréquent en réalité, et heureusement, il ne fait pas des pandémies à chaque fois. Le SARS, c'était aussi un coronavirus et il n'a pas fait de pandémie. Et je me souviens que les toutes premières prévisions...
Oui, moi j'avais annulé la foire de Genève.
À cause de cela.
À cause de ça.
Oui, c'était très catastrophiste. Et en fait, on s'était trompé, je dirais, de façon un peu collectivement. Moi, pour la pandémie de grippe H1N1, j'avais des idées assez pessimistes. Je craignais que ce soit grave. Je me souvenais des chiffres de la pandémie précédente de grippe, qui était de Hong Kong déjà, de Chine aussi en fait, hein, et qui remontait à 1968-69 et qui vraiment avait causé une surmortalité importante. Donc, je dirais que j'ai rapidement été alerté, rapidement été assez inquiet, en me disant il faut apprendre aussi du passé, ne pas être sur-inquiet, ça ne sert à rien. Et donc, assez rapidement, sur les réseaux sociaux, en particulier sur Twitter, j'ai eu une mine d'informations très intéressantes et j'ai commencé à suivre de très très près le déroulement de cette épidémie d'abord, hein, qui se passait d'abord en Chine et puis qui est parti un peu comme ce boléro, petit à petit.
Ce fameux boléro de Ravel.
Voilà, comme un boléro, et finalement, instrument après instrument, chaque pays, je dirais, a, les uns après les autres, joué la partition de cette épidémie dans son.
Alors, ce qui m'a beaucoup, beaucoup frappé dans votre livre, c'est que vous dites qu'au fond, quelques malades dans un marché d'une petite ville obscure de Chine continentale, tout à coup, quelques mois plus tard, ont provoqué la mise à l'arrêt de toute l'économie mondiale et puis surtout la privation des libertés les plus élémentaires de tous les habitants de la planète. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire parce que vous décrivez donc quelque chose, activité entre les êtres de la planète dont on n'avait pas tant conscience avant.
C'est vrai, je suis d'accord qu'on a peut-être pris encore plus conscience à quel point on était interconnectés. De se dire, quand le président Trump a été à son tour malade, on se dit finalement, tout ça, c'est une chaîne de transmission qui est partie un jour des environs
d'un marché de pêcheurs obscur. Ouais. Oui.
Voilà, donc on voit cette interconnexion. Personne n'aurait imaginé que la déflagration aurait été aussi dévastatrice. Hein. Elle n'est peut-être pas terminée. Elle est en bonne voie de résolution en ce moment.
Espérons-le.
En Europe. Et on ne sait jamais jusqu'à quand. Donc, on se garde bien de prédire, hein, à l'avenir. Hein.
Alors, j'ai lu aussi que vous disiez que les prédictions à plus de 7 jours, c'était au fond du rêve, hein, ou de la fantaisie.
Oui, alors, je me suis assez rapidement rapproché des deux écoles polytechniques que nous avons en Suisse et qui sont extraordinaires, que sont l'école polytechnique de Lausanne et celle de Zurich. Et on fait aujourd'hui, tous les jours, des prévisions. Donc je suis complètement pour faire des prévisions, mais on se réfrène à 7 jours, comme vous le dites. Un petit peu comme pour la météo. Si quelqu'un vous disait aujourd'hui, dans 3 mois, il fera beau à Genève, oui, il y aura une averse.
Mais ça, c'est Madame Soleil.
Voilà, on n'y croit pas, quoi. Donc ça nous amuse, mais on n'y croit pas. Et je pense que malheureusement, on n'a pas aujourd'hui de modèle mathématique permettant de vraiment prédire très au-delà de 7 jours. C'est peut-être un peu exagéré, 7 jours, dans certaines conditions assez stables. Probablement, on peut pousser à 15 jours, mais à peine plus.
Alors, vous décrivez dans ce livre, dans sa première partie, comment chaque pays a répondu à cette pandémie, comment il s'en est défendu. Vous montrez quand même que certains ont très très bien réagi dans la première partie et puis se sont fait rattraper ensuite. Et comment ça se fait, ça?
Oui,
on en fait partie en Suisse, d'ailleurs.
Oui, la Suisse ou l'Allemagne a vraiment très très bien géré la toute première vague. À chaque fois, c'était quand on était bien préparé, on a l'impression qu'on était... Et quand on s'était bien préparé, on a l'impression qu'on était mieux armé. Et c'est vrai que la Suisse ou l'Allemagne... Mais il y a d'autres pays, par exemple l'Uruguay en Amérique latine, qui avait très 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 bien géré le début de la crise et qui actuellement souffre d'une vague très très difficile à contenir et qui frappe d'ailleurs tout le continent latino-américain. Donc on voit que il n'y a pas d'acquis définitif. Alors, Taïwan, par exemple, qui était en stratégie zéro Covid, qui n'avait pas du tout, alors qu'ils sont aux portes de la Chine, mais justement extrêmement bien préparés, ont réussi à résister. Et là, très récemment, Taïwan, probablement à l'arrivée de pilotes de ligne qui sont un petit peu moins... Les équipages d'avions de ligne sont un petit peu moins soumis aux quarantaines un peu dures que l'on peut avoir lorsqu'on est un visiteur étranger débarquant sur ces endroits. Aujourd'hui, où vous savez, les contrôles sanitaires sont de plus en plus rigoureux, mais les équipages, on en a besoin. Il faut qu'ils conduisent l'avion dans l'autre sens, etc. Donc, ils ne sont pas soumis à des telles quarantaines, mais ils peuvent très bien se contaminer dans les pays qu'ils vont visiter.
Vous avez dit aussi que c'est l'innovation qui va permettre finalement de mieux, enfin qui a permis dans certains pays et qui va permettre aussi de mieux juguler cette pandémie, l'innovation.
Alors dans les innovations, il y en a de plein de sortes. Par exemple, les Chinois à Wuhan, au tout début de l'épidémie, ont été donc frappés et extrêmement surpris par la violence de l'épidémie, ils n'avaient pas de tests, comme nous d'ailleurs en Suisse ou en Europe, on n'avait pas beaucoup de tests au début. Et ils ont pallié cette difficulté en utilisant l'imagerie. Ils se sont aperçus que des scanners du poumon permettaient de déceler des images qui étaient tellement spécifiques de l'infection par coronavirus, que vous n'aviez même pas besoin de faire un test, c'était totalement certain que la personne était positive. Donc ça, c'est une forme d'innovation. D'autres formes d'innovation, c'est quand on voit les Australiens ou les Britanniques qui séquencent très massivement tous les virus qui sont positifs, et grâce à ça, ils voient des variants. On dit souvent le variant britannique, c'est possible qu'il ait été d'origine britannique, mais il est très possible aussi que... Dans le Kent, on ait pu isoler ce variant qui venait peut-être de Belgique ou de France.
Parce que les Français ne voient jamais des variants français, vous avez remarqué.
Bah, maintenant, on commence à séquencer un peu partout en Europe. Mais voilà, cette innovation, elle demande souvent un investissement, des équipements, des infrastructures et des talents et des compétences qu'on ne peut pas avoir comme ça en quelques minutes.
Alors, qu'est-ce qu'on écoute maintenant?
Alors, on va écouter Le Paradis perdu de Christine and the Queen.
Avec plaisir.
Radio Cité Genève, Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine, avec le professeur Antoine Flahaut. Vous savez, le professeur Antoine Flahaut, ses titres sont tellement impressionnants que je n'ai pas souhaité les énumérer, parce qu'à ce moment-là, toute l'émission leur était consacrée. Donc maintenant, et puis même chose pour ses publications. Donc nous aurions consacré toute cette émission. Nous n'avons pas voulu le faire, bien entendu, parce que nous avons tellement de questions à lui poser à propos de son livre qui s'appelle « Covid, le bal masqué » et qui est édité chez Duno. Alors, mon cher Antoine, il y a quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup frappé dans votre livre, c'est que vous dites que le Covid, ou la Covid, alors la Covid, c'est la maladie, et le Covid, c'est le microbe, c'est ça ?
Le microbe, c'est le SARS-CoV. D'accord. Et la maladie, c'est la Covid. L'Académie française dit, il faut dire la Covid, parce qu'on dit la maladie. Cela dit, par exemple, le journal Le Monde dit toujours le Covid. Donc,
bon, alors on dit le ou la, peu importe. En tout cas, il a augmenté les inégalités sociales que des décennies avaient permis de gommer. C'est important, ça.
Oui, alors, le problème de ces maladies, c'est que, bien sûr... le virus, il attaque et touche les riches comme les pauvres. Mais en fait, quand on réfléchit bien, quand on est pauvre, ou disons, quand on voit ce qu'on appelle les métiers essentiels, ceux qui, de toute façon, ne pouvaient pas ni télétravailler, ni même s'offrir le luxe, entre guillemets, de rester confinés à la maison. Parce qu'il faut bien que les poubelles continuent à être sorties et être amenées à la décharge. Parce qu'il faut bien que les caissières et les caissiers des supermarchés fonctionnent, que les boulangers nous fassent le pain le matin tôt, etc. Ces gens-là sont souvent beaucoup plus exposés. Regardez la caissière du supermarché ou le caissier du supermarché, il est très exposé en pleine période d'épidémie parce que les gens sont souvent au-dessus, ne portent pas toujours bien le masque. Dans la première vague, ne portaient même pas de masque.
Et après, ils l'ont mis sous le nez.
Et après, on les a souvent mal mis. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de raisons qui vont faire qu'on va toujours être mieux loti pour lutter contre la pandémie quand on est du côté des gens plus fortunés, mieux éduqués, etc. Si vous regardez aussi, c'est intéressant ce qui s'est passé en Australie et qui s'est évidemment passé ailleurs, en Suède en particulier aussi d'ailleurs, c'est que des personnes qui avaient des contrats de travail assez précaires, qui étaient souvent des migrants, tout à fait légaux, mais qui avaient peur de perdre leur permis de séjour, avaient peur de perdre leur contrat de travail. Et donc, ils pouvaient bénéficier des tests gratuits pour tout le monde.
Et ils ne les faisaient pas ?
Si, ils les faisaient parfois. Ils savaient qu'ils étaient positifs, mais ils ne le disaient pas.
Et ils avaient peur de perdre leur travail.
Et, oui, et on sait qu'il y a eu des personnes comme ça qui ont contaminé des EMS, hein, des établissements de retraite, et avec des foyers qui se sont diffusés. Et parfois, ils avaient des contrats précaires et multiples dans plusieurs maisons. Ils allaient d'une maison à une autre. Et il ne fallait pas qu'ils s'arrêtent, parce que sinon, ils risquaient de perdre leur emploi. Donc, on a vu que ces amortisseurs sociaux admirables, qui ont beaucoup bien fait leur travail dans tous les pays européens en particulier, et aussi en Australie, eh bien, ils n'étaient pas faits pour tout le monde. On a, dans nos sociétés, des poches de vulnérabilité, de précarité, qui, en réalité, sont, en plus du problème moral ou du problème éthique, sont potentiellement des bombes à retardement dans nos propres sociétés.
Et ça, on ne l'avait pas réalisé avant, en fait.
Alors, je pense que on est assez fiers de nos acquis sociaux, on les défend bien, et on ne se rend pas compte qu'il y a des gens qui passent au travers des mailles de ces filets de sécurité. Donc, on n'a pas toujours conscience, dans nos sociétés où la redistribution est très forte, tout le monde paye beaucoup d'impôts, plus les gens sont riches, plus ils en payent, etc. Donc, il n'y a pas de scandale en tant que tel, il n'y a pas de coupable quelque part, mais on se rend compte que cette redistribution, c'est pas qu'elle était insuffisante, c'est qu'elle laisse passer dans les mailles quelques poissons qui sont aussi estimables que nous et qui n'en profitent pas, n'en bénéficient pas, et surtout, à cause de cela, se mettent en danger et mettent en danger leurs proches, voire toute la communauté. Donc je pense qu'en effet, on a pu apprendre. Singapour, qui est probablement la ville-État la plus riche du monde, a connu des foyers très difficiles à contrôler, qui étaient essentiellement chez leurs migrants, là où les gens, par ailleurs, ont des habitats plus vétustes, où ils s'entassent davantage, où parfois il y a moins de ventilation, moins de climatisation. Bref, tout ce qui fait qu'ils vont avoir tendance à plus s'infecter, à créer des foyers qui vont être plus difficiles à contrôler et plus difficiles à... Alors, les Singapouriens ont pris les devants, ils ont changé ces états de choses, pas du jour au lendemain, mais ils ont décidé, bien sûr, d'essayer de remédier à ces problèmes.
Une question qui me vient à l'esprit, je voulais d'ailleurs poser lors de votre dernière conférence, parce que c'est étrange, les Africains semblent être relativement protégés de cette pandémie. Je crois que vous avez cité un grand professeur, vous avez dit qu'il était vraiment à la pointe de la recherche, et vous avez expliqué aussi que il savait que si le tam-tam africain n'avait pas fonctionné en disant « attention, tout le monde est infecté », c'est qu'en fait, il y avait peu d'infections, malgré la promiscuité de l'habitat africain.
Oui, c'est vrai que vous me faites... Vous me rappelez des propos que j'ai rapportés dans le livre d'Amadou Sall, qui est le directeur de l'Institut Pasteur de Dakar, au Sénégal, et qui confirme en effet que jusqu'à... peu de temps en tout cas, il y avait très très peu d'infections en Afrique, même s'il est vrai que les Africains testent beaucoup moins que les Européens par exemple, ils ont moins d'infrastructures, mais comme vous le dites, le tam-tam africain aurait permis de se dire, et puis bon, même les ambassades occidentales auraient rapporté des scènes d'engorgement de l'infrastructure hospitalière qui est encore plus précaire et plus faible dans ces pays d'Afrique subsaharienne. Cela dit, on aurait fait cette émission au mois de janvier, peut-être même encore en février de cette année. Probablement, vous m'auriez entendu dire et associer l'Inde dans ce type de situation. Jusqu'à février, janvier-février, l'Inde se croyait un peu... débarrassé du problème, indemne de cette pandémie. Ils avaient eu une toute petite vague et il y avait très très peu de cas. Pareil pour l'Afrique, je pense qu'il faut au moins tirer cette leçon de l'Inde, qui est une leçon de modestie, toujours pareil dans les prévisions à long terme. Je ne sais pas du tout ce qui se passera en Afrique dans les mois qui vont suivre. Ce que je vois, c'est des signes préoccupants en Afrique aujourd'hui, en Afrique du Sud en particulier, où à nouveau ils connaissent un rebond épidémique assez inquiétant, assez préoccupant. Mais que ce soit l'Ouganda, la République démocratique du Congo, la Zambie, on a aujourd'hui des signaux qui remontent d'une situation qui se dégrade assez rapidement. C'est très préoccupant pour plusieurs raisons. Une raison qu'on a dit tout à l'heure, c'est l'infrastructure hospitalière qui est beaucoup, beaucoup plus précaire et faible, mais aussi la vaccination qui, dans tous les pays que j'ai cités, ne dépasse pas 1 ou 2% de la population, alors que nous sommes à plus de 40% en Suisse aujourd'hui. Donc on a peu de protection, peu de filets d'amortisseurs sociaux dont je parlais tout à l'heure, beaucoup de travail informel qui ne permet pas aux gens de prendre les précautions qui s'imposent. Très difficile de faire des confinements dans ces pays-là. Alors c'est vrai qu'ils bénéficient d'une vie à l'extérieur plus importante. Or, on sait que le virus se transmet surtout à l'intérieur par des aérosols, donc pas trop à l'extérieur quand on est dehors ou quand on ouvre toutes les portes et les fenêtres, mais malgré tout, une situation qui pourrait être préoccupante à terme.
On va écouter de nouveau votre choix musical.
Oui, Deda de Barbara Pravi. Barbara Pravi qui a eu le deuxième prix de l'Eurovision, mais ce n'est pas cette chanson. Deda, c'est une chanson à son grand-père que je trouve très, très, très touchante.
On l'écoute.
Deda, Deda, écoute-moi, les choses que l'on n'ose pas se dire, les roses que l'on n'ose pas s'offrir, de peur qu'elles ne nous piquent les doigts. Tiens, les voilà, Deda, Deda, je te les dois, Deda, Deda. Toi qui parlais parfois du temps où tu as fui l'horreur des grenades, j'imitais l'accent de Belgrade et me moquais comme une enfant, comme l'enfant Deda, Deda, de ton enfant Deda, Deda. Allez, donne-moi ta main. tu ne sais pas quoi. Déda, Déda. Pas un mot, peu de gestes, et puis étais-je trop jeune ou toi trop vieux pour ne pas voir l'amour dans tes yeux qui était là sans faire de bruit. Et j'ai grandi, Déda, Déda. J'ai fait ma vie, Déda, Déda. Jusqu'à l'un de mes anniversaires où sont sortis comme des aveux les mots restés trop silencieux. Tu m'as dit que tu étais fière sans en avoir l'air, Déda, d'être mon grand-père, Déda. Allez, donne-moi ta main, Déda, Déda. Dis rien si tu ne sais pas quoi, Déda.
Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92 FM, dans la bouteille à moitié pleine, avec le professeur Antoine Flao, qui a écrit ce livre, c'est son dernier livre, Covid, le bal masqué, aux éditions d'Uno. Évidemment, nous sommes en train de disséquer un peu ce livre, mais il y a tellement de choses à dire que c'est difficile de faire des choix. Mais je voudrais revenir, si vous le voulez bien, Antoine, à l'Afrique. Parce que j'ai entendu dire qu'il y avait un nouveau vaccin qui serait peut-être la solution en Afrique, le COVAX. Qu'est-ce que c'est que ça ?
Alors, on a un peu tendance à être très centré sur l'Ouest et l'Occident. L'Ouest et l'Occident a produit des vaccins extraordinaires que sont les vaccins à ARN messager, le vaccin de Pfizer, BioNTech, et puis le vaccin également de Moderna, qui est américain, et puis un troisième qui va bientôt arriver, on l'espère, cet été probablement, qui s'appelle CureVac, et qui vient des Allemands.
On a entendu parler du Spoutnik aussi.
On a entendu parler d'AstraZeneca, de Johnson & Johnson et du Spoutnik. Alors les Russes ont lancé le Spoutnik, qui est aussi un vaccin qui ressemble à celui d'AstraZeneca, on va dire, ou qui est porté par un virus atténué, qui est un adénovirus qu'on nous injecte et qui amène le matériel génétique du coronavirus à l'intérieur de nos cellules. Et puis les Chinois ont fait d'autres vaccins, Sinovac et Sinopharm, ont fait des vaccins qui sont des vaccins peut-être un peu plus classiques de facture, on va dire.
Qu'est-ce qu'on appelle un vaccin classique ?
Un petit peu comme celui de la grippe, c'est-à-dire que c'est des vaccins tués. C'est des vaccins où on appelle ça inactivés, parce qu'on les inactive avec un produit chimique, mais en fait c'est du coronavirus qui est tué. Donc comme il n'est pas vivant, on risque
alors
rien.
Alors que l'AstraZeneca, lui, il est endormi.
C'est un autre virus, un adénovirus qui est totalement inoffensif chez l'homme, mais qui est vivant. Et donc, quelque part, on vous injecte un virus vivant. Alors, il ne se multiplie pas dans l'organisme, donc on n'a pas d'infection, on n'a pas de signe d'infection, mais c'est quand même un virus vivant qui est atténué. Donc, c'est déjà un peu plus innovant comme technique de fabrication vaccinale.
Et ce fameux COVAX, alors ?
Alors, COVAX, c'est un programme, c'est pas un vaccin, c'est un programme qui a été lancé par l'OMS et par Gavi, l'Alliance internationale des vaccins. Ces deux organisations sont basées, ont leur siège à Genève, et ils ont lancé très tôt dans la pandémie, en avril 2020, une initiative qui vise à mutualiser les vaccins existants et à faire en sorte que toutes les personnes de la planète puissent en bénéficier. Le président Macron en France avait dit un jour « il faut que les vaccins soient un bien public mondial », mais on voit que...
Les Suisses y sont opposés, en tout cas.
Sans parler des brevets, qui est un problème un peu plus compliqué, donc en tout cas on peut dire que 75% des vaccins aujourd'hui sont utilisés par une dizaine de pays seulement. C'est-à-dire que finalement, sur les 194 pays qui sont membres de l'OMS, on voit une inégalité flagrante dans la distribution des vaccins. Ce qu'avait demandé le directeur général de l'OMS...
C'est une question d'argent, Antoine ? C'est une question de quoi ?
C'est une question qui est d'inéquité planétaire, qui est évidemment beaucoup plus globale que cela. C'est vrai aussi pour les smartphones, c'est vrai pour beaucoup de produits. On n'est pas très partageurs des pays riches de la planète. On veut s'accaparer. Vous savez, le directeur général de l'OMS avait dit... soyez raisonnables, les pays riches, vaccinons déjà 20% de toute l'humanité, parce que 20% c'est toutes les personnes âgées de l'humanité, plus les personnes, les personnels de santé. Donc protégeons les personnes à risque, et puis après, on vaccinera les adultes plus jeunes, puis éventuellement les enfants. Eh bien, regardez ce que font les Occidentaux. On se vaccine tous. Et on a tous envie d'être vaccinés, d'avoir nos passes vaccinales, de pouvoir aller en Espagne l'été, etc. C'est tout à fait normal, c'est compréhensible. Mais c'est vrai qu'il faut quelques initiatives solidaires. Et on voit que le président Biden a décidé d'acheter 500 millions de doses et de les donner aux pays les plus pauvres de la planète à travers le dispositif COVAX. Donc on voit que COVAX est le réceptacle des bonnes actions que l'on peut faire.
D'accord.
Mais que c'est peut-être pas suffisant. On va peut-être se dire, à l'issue de cette pandémie, et dans le fond, il y a eu, lors de l'Assemblée mondiale de la santé, qui est une sorte de board, de conseil d'administration de l'OMS, il y a eu des réflexions où on s'est dit, mais maintenant, il faudrait qu'on puisse transférer, au-delà des brevets, il faudrait qu'on transfère les technologies, qu'on installe des usines de production de vaccins sur chaque continent. L'Afrique ne produit pas de vaccins aujourd'hui. Le plus gros producteur de vaccins, c'est l'Inde. Elle produit 60% des vaccins de la planète, mais pour le coronavirus. Mais ils ont une telle épidémie dans leur pays qu'ils ont décidé, ce qu'on peut comprendre, on aurait tous fait la même chose, de refuser toute exportation de leurs vaccins tant que leur problème n'est pas réglé. Donc il y a
donc
des retards.
Donc ils commencent par se vacciner eux-mêmes.
Oui,
clair.
Et du coup il y a des retards énormes pour l'Afrique qui ne reçoit pas les doses qu'on lui avait promises parce que simplement ils n'en fabriquent pas. Donc je crois que la leçon qu'il faut qu'on tire de cela, parce que de toute façon il y a d'autres maladies qui bénéficieront de cette production de vaccins locales, il faut que l'on puisse... Je ne sais pas s'il faut lever les brevets. C'est une question compliquée. Il ne faut pas non plus stériliser l'innovation qui vient le plus souvent d'industries pharmaceutiques privées. Par ailleurs, il y a très peu d'industries pharmaceutiques qui produisent des vaccins. Il y a 5 ou 6 gros producteurs de vaccins dans le monde. C'est un savoir-faire qui est extrêmement difficile. Et si vous braquez ces industriels en leur volant quelque part, oui, leurs brevets. Bien sûr, on peut avoir des bonnes raisons de le dire. Il y a des gens qui disent, mais oui, mais il y a eu tellement de fonds publics pour
les aider à mettre,
Au point ces vaccins, qu'on peut comprendre que maintenant, on lève les brevets. Certes, mais si on les braque trop, ils ne vont pas transférer leur technologie. Or, ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est qu'ils nous apprennent à faire comment faire ces vaccins. Je discutais, pour vous dire, avec le PDG de Sanofi Pasteur, qui me disait, mais vous savez, nous, on ne fait pas de ces vaccins à ARN messager pour l'instant. On n'a pas été sur le podium, on aurait bien voulu, mais on ne l'est pas. Mais même si on nous donne les brevets demain, ça ne va pas nous permettre de les faire tout de suite. On n'a pas les cuves qui permettent de faire ce type-là de vaccins. On ne sait pas les faire, ces vaccins. On n'a pas non plus toute le savoir-faire et on n'a même pas les talents en interne. On devrait les recruter. Si jamais on est aidé par des partenariats habilement construits avec ceux qui savent faire et qui nous transfèrent ce savoir-faire, on peut être très rapide à aider, même aujourd'hui, BioNTech, Pfizer, c'est ce qu'ils font d'ailleurs, ou d'autres, à faire ce type de vaccin. Donc il faut aujourd'hui plutôt un partenariat bien compris, plutôt qu'une guerre, je dirais, contre des industriels. Il faut les associer, les motiver, peut-être même d'ailleurs donner des incitations financières pour qu'ils viennent installer des usines de production dans tous les continents, et en particulier en Amérique latine et en Afrique subsaharienne.
Je vais changer complètement de sujet. Vous avez écrit, et ça m'a frappé aussi, qu'au fond, les jeunes étaient un peu les victimes dans cette pandémie. Ils étaient au fond moins touchés que leurs aînés, mais obligés de se protéger et de protéger leurs aînés en se coupant de toute vie active, en quelque sorte. Et on imagine au fond que pour des jeunes, pour des enfants, des adolescents, des jeunes adultes, c'est horrible d'avoir été obligé de se couper comme ça de ce qui faisait leur vie de tous les jours. Au fond, dans un but, protéger les aînés. Ils ont été assez admirables finalement.
Oui, je trouve que... J'aime bien que vous me rappeliez cela parce que je trouve que on n'a pas assez loué cette admirable résilience des jeunes dans cette pandémie qui, bien souvent, ne se sont pas sentis obligés. Ils ont senti assez naturellement un devoir de respecter les confinements. On les a peu vus dans les rues des différentes capitales européennes.
Moi, je plains les étudiants qui étaient confinés dans des petites chambres de rien, sans accès à des jardins ou à des parcs. C'est horrible, ça.
Franchement, la vie étudiante, c'est pas d'écouter des cours en pyjama derrière son écran.
Ben non.
La vie étudiante, c'est quand même clairement d'aller dans les bibliothèques, de sortir, aller prendre des pots dans des bars et des restaurants, peut-être aller dans des discothèques le samedi soir. Enfin, la vie étudiante, quoi.
La vie tout court.
Et il y a une génération qui, depuis 2 ans, ne connaît pas cette vie si simple et si évidente pour tous les autres. Donc c'est vrai que je pense que les jeunes ont payé un tribut lourd. Je ne parle pas de ceux qui ont des difficultés à trouver des stages dans la vie professionnelle. Je ne parle pas des jeunes qui arrivaient sur le marché du travail et qui ont vu beaucoup de portes se fermer. C'était extrêmement peu propice à l'emploi. Et quand l'emploi a été créé, c'est des emplois qui étaient un peu bizarres, où il y avait finalement de télétravail qui s'est instauré. Ils n'ont pas pu connaître leurs collègues. Enfin, la vie des jeunes, de façon générale, a été, sur le plan social, sur le plan économique, très impactée par cette pandémie. Même si, en effet, sur le plan médical, ils ont eu moins de complications sévères que leurs aînés.
Qu'est-ce qu'on écoute maintenant, Antoine ?
On écoute une chanson qui est vraiment ce qu'on peut appeler une chanson. Il y a très peu d'instruments dans cette chanson de Camille, qui s'appelle « Tout dit ». C'est avec sa voix qu'elle fait, en plus, l'accompagnement musical.
On écoute.
Radio Cité Genève, Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
J'ai tout dit, tout dit. J'ai terminé ma phrase, tout dit. J'ai tout dit. C'est gravé dans le marbre, tout dit. Hey, tout dit, si, tout dit, ah, tout dit, sœur, tout dit. Tu veux que l'on se parle, tout dit. Oh, ma sœur Hildegarde, tout dit. Je, tout dit, suis, tout dit, le, tout dit, bruit, tout dit. Des oiseaux dans les arbres, tout dit. J'ai, tout dit. J'ai fui à la hussarde, tout dit. J'ai tout dit. Et les rats m'ont suivi, tout dit. Eh, tout dit, si, tout dit, ma, tout dit, sœur, tout dit. Tu as peur pour ma vie, tout dit. Oh, ma sœur, il te garde, tout dit. Je, tout dit, suis, le vent, tout dit, bruit, tout dit, de la pluie dans les arbres, tout dit, j'ai tout dit, j'ai rompu le charme, tout dit, j'ai...
Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine, et nous sommes avec le grand professeur Antoine Flao. Antoine, on a passé déjà beaucoup de choses en revue à travers le livre que vous avez écrit, Covid, le bal masqué. Il y a un petit quelque chose qui me chiffonne. On en a parlé un petit peu dans votre livre, les complotistes. Comment se fait-il que tant de gens se soient inventés d'autres sciences, d'autres histoires, d'autres mondes ?
Alors, c'est probablement le fait de toutes les pandémies. Dans l'histoire humaine, il y avait probablement... lors des grandes épidémies de peste, le même genre d'appel.
Il n'y avait pas les réseaux sociaux pour les propager.
Ensuite, il ne faut pas mélanger ceux qui peuvent avoir exprimé des doutes, ceux qui peuvent exprimer des colères, ceux qui peuvent exprimer des hésitations, y compris vis-à-vis du vaccin, avec les complotistes. Je trouve que parfois, on met un peu tout le monde dans le même baquet, et je pense que c'est un peu insultant pour un certain nombre de gens qui se posent des questions assez rationnelles. Vous savez, on a une nouvelle maladie, un vaccin qui a été fait très vite, qui est un nouveau vaccin. Au début, il y avait beaucoup de scientifiques qui disaient « Mais vous savez, on n'a même pas les publications, elles ne sont pas encore parues, comment voulez-vous que je m'exprime dessus ?» Ils n'étaient pas complotistes, c'était assez logique. Mmh. Et puis je pense qu'on peut entendre que certaines personnes qui se sentent peu à risque n'aient pas envie immédiatement de se faire vacciner, envie d'attendre un peu, de réfléchir. Je pense qu'il faut respecter aussi une certaine hésitation, et parfois on traite de complotistes assez facilement toute personne qui ne pense pas, je dirais...
Qui n'est pas dans le trend.
Voilà, qui n'est pas dans la voie du parti. Donc là-dessus, il faut faire un peu attention, mais ce qui est vrai, c'est que ce type de pandémie qui est tellement brutale et tellement dévastatrice, y compris sous nos vies sociales, etc., peuvent un peu déranger des personnes et qui perdent un petit peu leurs repères et qui peuvent avoir des idées qui nous paraissent saugrenues. Ça doit arriver aussi.
Oui, mais enfin, le problème, c'est que lorsqu'ils sont des personnages en vue, quelquefois pour des raisons qui n'ont rien de scientifique, qui sont des raisons simplement business ou tout simplement, ce sont des gens qui sont connus pour d'autres activités de sport ou de télévision ou de radio, je ne sais quoi. À ce moment-là, ils ont une notoriété qui fait qu'ils ont une parole qui est écoutée ou entendue. Et ça, c'est inquiétant aussi.
Oui, c'est inquiétant. On sait que... C'est un des points que l'Organisation mondiale de la santé relève souvent, parce que ce n'est pas uniquement en Suisse ou en Europe, hein, c'est un peu partout dans le monde, y compris même des pays comme l'Inde, par exemple, qui véhiculent des idées fausses. Il faut savoir que ces idées fausses, cette désinformation, peut être extrêmement délétère. Elle peut, lorsque des voix un peu d'autorité, des voix qui sont appréciées par le public, vont vous vendre des tisanes qui n'ont pas d'effet contre le virus, en disant que ce sont des médicaments miracles qui vont les guérir.
Et vous ne vous souvenez pas de la pauvre Rika Zaraï qui avait raconté que les bains de siège protégeaient du sida?
Oui, ce genre de choses. Ça peut être extrêmement dangereux, en fait. Il y a un pouvoir de la désinformation dans cette société très informatique et très tourné vers l'information, dans les réseaux sociaux qui propagent aussi rapidement que les virus dans la société. C'est vrai qu'il faut savoir que ces informations sont souvent délétères. C'est une des raisons qui nous pousse, les académiques, à nous exprimer. On n'est sans doute pas les mieux formés à cela. Il y a des techniques de communication que nous n'avons pas apprises, mais c'est vrai qu'il est important, en tout cas, que des voix scientifiques s'expriment pour un tout petit peu contrebalancer un certain nombre de voix qui ne reposent pas leurs arguments sur des connaissances scientifiques.
Alors, on entend beaucoup aussi de voix pour et contre autour de l'OMS. Qu'en est-il ?
Alors, l'Organisation mondiale de la santé, à son siège à Genève, c'est une organisation qui a des bureaux régionaux dans les 6 régions de l'ONU dans le monde, qui a des bureaux dans beaucoup de pays du monde, et qui a un budget qui n'est pas beaucoup plus élevé que celui des hôpitaux universitaires de Genève. Donc c'est un tout petit budget, finalement, pour une très grosse organisation qui n'est pas en charge que de la Covid-19, mais de toutes les maladies, rien que cela. Et en fait, les gens qui critiquent l'OMS sont pratiquement toujours des gens venant des pays riches. Vous verrez très très peu d'experts, ou même du public, ou des politiques, des pays pauvres, critiquer l'OMS. Pourquoi ? Parce qu'ils ont énormément besoin de l'OMS. En fait, l'Organisation mondiale de la santé est très rarement remise en question sur ses avis scientifiques. Alors que vous pouvez voir que dans la Covid-19, les scientifiques ne sont jamais d'accord entre eux. L'OMS arrive à consolider l'information scientifique et à délivrer des informations qui sont généralement considérées par tout le monde comme des bonnes informations, utiles pour prendre des décisions. Et quand vous êtes un petit pays assez pauvre de la planète, vous n'avez pas une école de santé publique, un institut de santé globale ou une université et des chercheurs pour vous guider. Vous pouvez avoir le choix entre avoir des anciens réseaux d'influence, vous étiez un pays qui était une colonie, par exemple, de la France ou de la Grande-Bretagne, ou bien vous êtes dans l'influence des Soviétiques ou des Chinois, et vous allez avoir des informations qui peuvent être biaisées. Vous pouvez redouter qu'elles aient un agenda caché, que les gens veulent vendre leurs propres produits, ou vous ne savez pas très bien. Alors qu'avec l'OMS, vous avez une forme de neutralité bienveillante, et vous savez que ce multilatéralisme vous garantit une forme d'indépendance et de neutralité. Et puis, l'autre chose qu'il faut dire de l'OMS, c'est qu'elle a un conseil d'administration qu'on appelle l'Assemblée mondiale de la santé. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est les 194 États membres qui envoient leur ministre de la Santé chaque année à Genève, au mois de mai. Bon, en ce moment, c'est virtuel, mais c'était toujours comme ça jusqu'à présent. Et qui prend les décisions. Et en fait, ces États membres, très souvent, sont assez jaloux de leurs prérogatives nationales et ne veulent pas donner au directeur général de l'OMS et à son secrétariat des pouvoirs qui pourraient être un peu considérés comme intrusifs.
Des pouvoirs d'investigation, par exemple.
Exactement. Le pouvoir d'investigation, c'est, quand on a reproché à l'OMS de ne pas avoir été en Chine assez tôt, c'était très injuste, parce que l'OMS ne peut simplement pas dire « maintenant nous allons en Chine ».
Elle a quand même été assez douce, je dirais, dans le traitement des informations chinoises qui étaient manifestement tronquées, quand même.
Oui, vous avez tout à fait raison. D'abord, les Chinois donnent les informations qu'ils veulent bien donner, mais ensuite, l'OMS est obligée, puisqu'elle n'a pas de pouvoir d'investigation. Vous savez, par exemple, dans les traités de non-prolifération des armes chimiques ou nucléaires, quand vous signez ce traité, vous signez également le droit d'ingérence, si je puis dire.
Oui, on l'a vu en Iran.
Et oui, il y a des équipes qui débarquent et qui vont regarder les choses, qui prennent des photos, qui font des tests et qui ne demandent pas aux autorités l'autorisation. On n'a pas donné à l'OMS ce pouvoir-là. J'espère qu'on le donnera.
C'est dommage, parce que ce serait utile.
Ce serait très utile, parce qu'à ce moment-là, l'OMS n'aurait pas de raison de caresser dans le sens du poil les États membres. Si l'OMS se mettait à critiquer ouvertement un pays comme la Chine, elle se verrait fermer ses portes et de façon tout à fait légale. La Chine dirait, écoutez, puisque vous nous considérez avec autant de mépris, on n'accepte pas vos équipes sur notre sol. Là, l'OMS essaye de, forcément, dans un rôle qui la politise un petit peu, essaye d'avoir des bonnes relations avec les autorités chinoises pour pouvoir quand même conduire des investissements.
Alors du coup, elle est un peu décriée dans nos pays, dans les pays occidentaux dits riches.
Oui, et parfois très décrié quand l'administration américaine avait retiré son financement, alors que c'est le premier financeur de l'OMS, vous imaginez le problème que ça a posé. Donc l'OMS fait très attention avec ses États membres, est obligée, donc est extrêmement politisée, bien, bien trop. Il vaudrait beaucoup mieux qu'elle ait des pouvoirs plus étendus et une autonomie financière plus importante pour qu'on puisse, à ce moment-là, dans le board, dans le conseil d'administration, exiger d'elle un certain nombre d'actions que aujourd'hui on ne veut simplement pas lui confier.
Bon, espérons que ça changera dans l'avenir, mais ça, on ne peut pas le savoir.
Non, alors jusqu'à présent, à chaque crise de type international, que ce soit Ebola, le SRAS ou d'autres dont on a parlé tout à l'heure, l'OMS, on lui demandait de se réformer. On estimait que c'était de la faute de l'OMS et donc l'OMS se réformait et elle passait 2 ans à changer ses directions, ses divisions.
C'est la faute du messager, bien sûr, des mauvaises nouvelles.
Cette fois-ci, peut-être qu'on a un peu appris les choses. L'OMS, on lui a demandé l'année dernière, à l'Assemblée mondiale du mois de mai, créer une commission indépendante qui évalue son action. J'étais très proche des travaux de cette commission et je les ai suivis de très près. C'était extrêmement intéressant. Elle était dirigée par 2 premières ministres du Libéria et de Nouvelle-Zélande, anciennes premières ministres, qui ont fait un travail avec des experts absolument remarquables et qui ont délivré au mois de mai cette année ses conclusions un peu décapante vis-à-vis des États membres en particulier. Et je pense que peut-être on va... Cette fois-ci, par exemple, il n'y a pas eu de demande de réforme de l'OMS. S'il y a réforme, ce sera plutôt de l'action des États membres et de la gouvernance de l'OMS. Et ça, je pense que c'est assez prometteur.
Mon cher Antoine, on arrive malheureusement au terme de cette émission. Moi, j'aurais aimé vous garder 3 heures. Je vais lire la dédicace que vous m'avez faite de votre livre « Covid, le bal masqué » aux éditions du Nou, vous m'avez dit à Viviane, en espérant que la fête recommence, la vraie, cette fois, sans masque. Si vous en êtes d'accord, on va faire ensemble ce vœu, parce que c'est tout ce que nous souhaitons les uns et les autres sur la planète aujourd'hui, c'est qu'on puisse demain se remettre à danser sans masque.
Tout à fait. Et merci beaucoup pour cet entretien et ce partage extrêmement, extrêmement enrichissant.
C'était passionnant, Antoine. Merci beaucoup. Et on va écouter la dernière... Le dernier morceau que vous nous avez choisi.
Oui, je veux tes yeux d'Angèle. J'aime beaucoup Angèle. Et puis, elle va nous inviter à danser quelque part. Et écoutez bien, elle dit, je veux les deux. Je veux tes yeux, je veux les deux. Je trouve ça très joli.
On va l'écouter. Puis, on remercie aussi Olivier Steinmetz, notre réalisateur. Merci Antoine. Et j'espère à bientôt, on recommencera. On vous redemandera de venir parce que c'est absolument passionnant. Merci beaucoup pour votre présence.
Merci Viviane, avec grand plaisir.
À bientôt.
Au revoir.
Je veux tes yeux, que tes beaux yeux seulement en photo. Je veux les deux, je veux les deux, sans sentir ta peau. Connectée en ligne, mais pas à moi. J'attends ton signe, je crois qu'il y en a pas. J'ai vu que t'as vu, tu réponds pas. Alors j'attends, toujours j'attends, qu'enfin il sonne, ce son l'attend. Peut-être je me mens, peut-être j'en tremble. Faudrait pas que tu penses que je veux tes yeux, que tes beaux yeux seulement. Un jour peut-être, on se verra, mais pas tout de suite, je préfère pas. Je préfère l'illusion de t'avoir, j'ai espoir, mais t'invente pas trop d'histoires. Ok, je sais déjà que si tu m'oublies, ça m'apprendra que je veux tes yeux. Je veux tes yeux. Que tes beaux yeux.